les jardinières.
Bonjour à tous et bonjour Aileen.
Bonjour Stéphanie.
Ce matin, jusqu'à 8h, on fait place au savoir de Fabrice Rondet, paysagiste à Porrentruy. Bonjour Fabrice.
Bonjour.
Cette semaine, le froid a fait son grand retour. Du coup, peut-être que vos plantes ont souffert, peut-être que vous ne savez pas comment les sauver. Heureusement qu'on est là pour vous donner les meilleurs conseils possibles et surtout des conseils personnalisés. Pour cela, il suffit de nous expliquer votre problème, de poser vos questions tout au long de l'émission.
Et d'ailleurs, les questions, vous pouvez nous les poser dès à présent par téléphone, tout simplement en composant le 0901 70 20 20 pour 36 centimes la minute. Ou alors, vous pouvez nous envoyer un SMS en tapant le mot jardin, suivi d'un espace, puis de votre question. Et vous nous envoyez tout ça au 939. Et sans oublier les formulaires que vous pouvez nous envoyer via notre site internet durant toute la semaine, mais également durant l'émission.
Bienvenue chez les jardinières, nous sommes ensemble jusqu'à 8h.
Les jardinières.
Aileen, nous avons déjà quelqu'un en ligne, c'est Pascal de Malraix, bonjour.
Oui, bonjour.
Bonjour Pascal.
Bonjour.
Bonjour à tous. Ça concerne pour les géraniums.
On vous écoute.
Ils sont déjà en vente dans les surfaces. Mais c'est trop tôt pour les mettre sur les balcons, maintenant.
Oui, alors effectivement, on a des petits soucis avec les gels en ce moment. Donc, le géranium fait partie des plantes qui pourraient prendre un petit coup de froid et puis pourraient compromettre leur démarrage. Donc, ce que vous pouvez faire peut-être, c'est les acheter maintenant. Comme ça, vous pouvez les choisir, vous pouvez prendre les plus beaux. Et puis ensuite, vous les protégez un petit peu chez vous. Vous les mettez dans la nuit où c'est qu'on a un petit abri. D'accord. Par rapport au froid. Et puis, on pourrait les ressortir éventuellement dans la journée si vous avez le temps pour les rentrer pour la nuit qui suit. Et puis, comme ça, vous surveillez aussi à la météo les températures qu'ils annoncent pour être sûr de faire bien ce travail-là.
D'accord.
Eh bien, voilà.
Merci beaucoup, Pascal.
Je vous remercie. Bonne journée à tous.
Belle journée,
merci
Pascal.
Bien, bon week-end.
Belle journée
demain,
à vous.
Merci, au revoir.
Et nous avons un autre appel, je crois, Aileen.
Je crois que la personne nous a quittés, malheureusement. Donc, on invite donc, tout le monde à nous appeler au 0901 70 20 20 jusqu'à 8h pour justement poser vos questions et obtenir des conseils personnalisés de la part de Fabrice Rondet. Mais on a reçu une question par SMS de Janine cette semaine. Janine qui nous a écrit qu'elle a semé des tagettes il y a 15 jours dans une pièce à 20 degrés, une caisse a bien levé et les autres presque pas. Que faire, Fabrice ?
Alors ça, c'est un petit peu difficile de dire comme ça. Ce qu'il faut surveiller, c'est les paramètres qu'il y a avec au niveau de l'arrosage, au niveau de la luminosité, au niveau de la température. Donc, est-ce que les deux caissettes ont reçu les mêmes soins ? Et puis, peut-être leur laisser encore quelques jours pour s'assurer que ça fonctionne ou pas. Après, ça peut être lié aussi au type de graines qu'elle a. Il y a peut-être des provenances différentes. Est-ce que c'est toute la même provenance ? Si c'est des provenances différentes, il peut y avoir une différence au niveau de la levée. Ça peut être aussi les variétés, peut-être. Si c'est des variétés différentes, des petites ou des grandes, on peut avoir une petite différence de levée aussi. Donc, regardez un petit peu ces choses-là, mais il ne faut pas s'alarmer tout de suite.
En tout cas, Janine, elle a fait tout juste. Pour l'instant, une pièce à 20 degrés pour des tagettes, c'est correct.
Normalement, ça doit bien lever, ouais. Il ne faut pas non plus trop les enterrer. Ça peut prendre un peu plus de temps. On peut avoir une certaine perte si elle les a trop enterrées. Mais apparemment, elle doit connaître tout ça. J'imagine que ce n'est pas la première fois qu'elle le fait.
Et justement, est-ce qu'il y a des autres plantes qui sont à garder dans des pièces à température similaire, par exemple, autres que les tagettes ?
Mais un petit peu toutes les plantes qu'on va démarrer en début de saison, il faut un peu les protéger parce qu'on peut pas les mettre dehors, parce qu'on a vu qu'on a eu des semaines très favorables il y a peu de temps, puis on a vu que tout d'un coup on bascule avec des températures autour de zéro, voire en dessous de zéro. Donc ces petites plantes-là, si elles germent et puis qu'elles sont dehors, automatiquement elles vont brûler et ça ne redémarrera pas.
Justement, en parlant de ces gelées qu'on a eues là ces derniers jours, comment est-ce qu'on fait pour soigner les plantes qu'on aurait déjà sorties parce qu'on croyait que ça y est, le printemps est là, le beau temps est là, les températures sont favorables à nos plantes? Qu'est-ce qu'on peut faire pour un peu sauver le coup si une de nos plantes a souffert durant ces quelques jours?
Alors, ça dépend un petit peu quel type de plante, mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut réagir assez vite. Il ne faudrait pas les laisser passer plusieurs jours de suite dehors, prendre des coups de froid sur coups de froid, parce que ça pourrait être mauvais. Mais si elles ont pris qu'une seule nuit comme ça, à la limite, on risque d'avoir des feuillages qui brûlent. Donc ces feuilles-là veulent tomber. Et puis après, si on les a protégées, on devrait avoir des petits bourgeons qui sont dormants, qui veulent se réveiller sous l'apport de nourriture qui vont recevoir dans les jours prochains sous cette montée de sève qu'ils ont eue. Et puis on va avoir une plante qui redémarre. Donc il faut les mettre à l'abri, les mettre dans des conditions favorables, suivre l'arrosage, mettre un petit peu d'engrais pour exciter la végétation. Puis on devra avoir des plantes qui redémarrent.
Donc c'est pas fini, il y a encore des petits espoirs.
Il y a toujours de l'espoir.
La nature est bien faite.
Oui.
Et justement, enfin, les saintes glaces, elles ne sont pas encore arrivées. Si je m'abuse, c'est autour du 10 mai cette année, c'est juste?
Oui, c'est toujours autour du 10 mai, exactement. Ouais.
Et justement, si on veut protéger nos plantes pour cette période-là, comment est-ce qu'on pourrait s'y prendre?
Ah, moi, je pense que le premier des réflexes, c'est suivre les bulletins météo, regarder sur la météo locale. Et puis, si on peut personnaliser maintenant avec les portables qu'on a sur notre région, on sait ce qui va nous attendre dans les 24 heures à venir. Donc, il faudrait anticiper les nuits prochaines. Donc, on peut réagir de cette façon-là au départ. Et après, on peut protéger les plantes de différentes façons. Si on a un jardin d'hiver, si on a une véranda, si on a une petite serre, si on a un mur qui peut protéger par rapport à une bise. On a la bise qui souffle aussi en ce moment. Donc, si on peut protéger les plantes à l'abri d'un mur, si on peut avoir une petite toile d'hivernage qu'on peut mettre sur la plante pendant la nuit. Mais après, ça demande du travail supplémentaire, mais ça vaut peut-être la peine suivant la plante qu'on veut protéger, oui.
939, c'est le numéro à composer pour envoyer votre question par SMS. D'ailleurs, Aileen, quelqu'un a utilisé ce moyen.
Exactement, on a Baptiste Dulondron qui nous explique qu'il a une plante en train de mourir, il ne se souvient plus du nom de celle-ci, elle a des feuilles dans les tons violets et verts, il ne pense pas pouvoir la récupérer mais se demande s'il peut en utiliser la terre pour une future plante dont cette fois-ci il prendrait un peu plus soin. Est-ce qu'on peut récupérer la plante, la terre d'une plante qui est en train de mourir?
Alors je pense que, comme c'est formulé, ça doit être une plante d'appartement peut-être.
Donc, oui.
Je pense que si c'est une plante d'appartement, le volume de terre étant petit pour un pot, donc je pense moi que je me débarrasserai de tout, je la mettrai au compost et je recommencerai avec une terre pour plante verte d'intérieur nouvelle, pour avoir déjà la bonne terre, neuve, pleine de ressources nutritives, et puis comme ça, on éviterait les doutes à ce sujet-là. Parce qu'on ne sait pas si c'est un manque de soins qu'il a eu par rapport à un manque d'eau, ou vraiment s'il y a eu un problème de maladie ou de parasite.
Merci beaucoup Fabrice. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes avec nous jusqu'à 8h pour répondre à toutes les questions. Les questions, on les attend d'ailleurs par téléphone. Vous pouvez composer le 0901 70 20 20 pour poser directement votre question à Fabrice. Ou alors vous nous envoyez un SMS, vous tapez le mot jardin, suivi d'un espace, puis de votre question. Et vous nous envoyez tout ça au 939.
7h, 8h, les jardinières.
Les jardinières, c'est jusqu'à 8h et jusqu'à 8h, vous pouvez nous poser les questions que vous désirez concernant votre jardin par SMS en tapant le mot jardin, suivi d'un espace, puis de votre question. Et vous nous envoyez tout ça au 939 ou alors vous nous appelez au 0901 70 20 20 comme vient de le faire Michel. Bonjour.
Bonjour. C'est au sujet des orties, je voulais les couper. Or, quand que je fasse quoi que ce soit, je me renseigne tout avant. Alors, je voulais l'informer que les orties sèches, surtout pour les papillons.
Est-ce que c'est vrai, Fabrice? Les orties, c'est utile pour les papillons?
Alors, c'est effectivement vrai. On a une variété de papillons qui vient se...
Oh, trois sorties, m'a dit un spécialiste.
Alors, oui, mais il y a surtout une variété qui nous intéresse parce que c'est une variété qui ne pond qu'uniquement sur les orties. Alors après, on a d'autres insectes aussi qui viennent dessus. Et pour ça, ben, on protège un petit peu certains lieux d'orties. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas les protéger non plus partout parce qu'avoir un petit foyer d'orties à la maison, ce n'est pas super sympa.
Alors, j'étais le tout. Ruisseau, j'avais peur que ça s'égrène, mais je les veux laisser vu que j'ai beaucoup de papillons.
Ben, par rapport à l'écosystème, ça pourrait être sympa, effectivement. Ouais.
Oh, je suis plus qu'écologique.
Alors, c'est très bien. Alors,
c'est très bien, Michel.
Ouais. Mais si vous allez regarder sur Internet, vous verrez les sortes qui sont vraiment intéressées par l'ortie.
Moi, je connais le gaillard, il venait tout recouper là, il connaît par cœur.
C'est un
spécialiste.
Bien.
Je connais tous les spécialistes.
C'est très bien, Michel.
Et justement, Fabrice, peut-être par rapport aux orties, est-ce qu'il y a des autres utilisations par rapport à cette plante ?
La soupe, il paraît.
Oui, effectivement. Alors, on peut l'utiliser déjà au jardin aussi en faisant du purin d'ortie pour nous aider par rapport à la fertilisation. Par rapport aussi dans le ménage, on peut utiliser ça pour la soupe. On peut utiliser ça aussi en tisane pour... c'est pas pour...
C'est vrai qu'il y a de la tisane d'ortie.
Ouais, oui, oui. C'est pour aider les personnes à nettoyer les reins, sauf erreur, si je ne me trompe pas. Et puis au niveau des orties, par rapport à cette ponte, au niveau des chenilles, de ces papillons, ce que vous pouvez faire, c'est justement sur Internet, vous verrez les périodes, elles seront précisées sur quel moment elles sont utiles. Et puis après, vous pouvez justement... Les faucher, éventuellement faire un purin d'ortie pour votre jardin et puis après vous débarrasser du reste d'une façon régulière. C'est juste pendant un petit moment que c'est super important pour ces chenilles.
En tout cas, merci Michel d'avoir posé une question sur les orties.
Vous avez à côté du tapis, si vous l'étouffez, ça fait quoi ?
J'ai pas compris, monsieur, le début.
Quand vous êtes à côté de la piscine, il y en a, puis vous marchez dessus, ça fait quoi ?
Ben, certaines personnes sont très réactives par rapport à ça, parce que c'est quand même une plante qui est urticante. Donc d'autres sont...
Vraiment... Avant, j'ai senti une demi-heure, maintenant deux jours.
Aïe, oui, alors effectivement, certaines personnes sont très réactives par rapport à ça, mais d'autres moins. Donc voilà, évitez de les toucher.
Merci beaucoup, Michel.
Si j'ai bien compris, il faut arracher des racines, parce que depuis que j'ai arraché des racines, il n'y en a plus, là.
Alors, c'est le seul moyen, si on élimine la racine, effectivement, d'éliminer un petit peu la tâche qu'on a. Autrement, elles reviendront toujours. Et puis, du fait que c'est une plante vivace, elle va se densifier de plus en plus.
Ah, j'ai bien vu. Alors, maintenant, c'est bon. Je vous remercie. Vous souhaite un bon week-end.
À vous aussi, Michel. Belle journée. On a reçu une question par SMS également de Georges de Boncourt qui nous demande quelle sorte de plante on peut utiliser pour faire de l'art aux pierres. On parle... surtout de bonsaï dans ces cas-là, c'est ça, Fabrice ?
Alors, l'art aux pierres, c'est effectivement toutes ces jolies plantes qu'on conduit sous des formes très spéciales, une succession de boules sur une tige unique ou sur plusieurs tiges, sur tout ce qui est style bonsaï, tout ce qui est en pyramide, en spirale, toutes ces choses-là. Donc, on a des variétés qui s'y prêtent vraiment très, très bien. C'est notamment l'if, le buis. Après, on utilise aussi certaines variétés de conifères qui réagissent très bien. Et puis, par rapport à ces variétés de conifères, on aura des prix qui s'affichent, qui seront complètement différents. On a des choses qui sont très longues à conduire, qui poussent lentement, comme les ifs, les buis. On a le hou aussi, où c'est qu'on peut faire des très belles choses. Donc, le choix est illimité. Puis, les formes aussi, c'est illimité. Après, on peut même créer ça nous-mêmes.
Ah ouais, ça doit être quand même assez difficile.
Et c'est très long.
Il faut avoir de la patience.
Oh, voilà. Il faut être strict dans les règles, avoir de la patience et puis pas changer d'avis en cours de route. Et puis vous y arriverez. Hein. Beaucoup d'œil, puis c'est bon.
Fabrice, vous êtes avec nous jusqu'à 8 heures pour répondre à toutes les questions des auditeurs. Les auditeurs qui peuvent d'ailleurs nous appeler tout simplement en composant le 0901 70 20 20 pour 36 centimes à la minute. Ou alors ils peuvent nous envoyer un SMS en tapant le bon jardin suivi d'un espace puis de votre question. Et vous nous envoyez tout ça au 939. On y répondra juste après une petite pause musicale suivie de la météo et des inforoutes.
Les jardinières.
Jusqu'à 8h, vous êtes chez les jardinières. Ce matin, Fabrice Rondet, paysagiste à Porrentruy, est là pour vous aider à prendre soin de vos petites plantes et même des grandes. Hein. Pour ça, il suffit de nous poser vos questions.
Les questions, vous pouvez les poser de différentes manières. Soit vous nous envoyez un SMS en tapant tout simplement le mot jardin suivi d'un espace, puis de votre question. Et vous nous envoyez tout ça au 939 ou alors vous nous envoyez un formulaire qui se trouve sur notre site internet, sur l'onglet émission. Et troisième possibilité, pas des moindres, vous pouvez composer jusqu'à 8h le 0901 70 20 20 pour 36 centimes la minute. Ainsi, Fabrice répondra directement à votre question par téléphone au 0901 70 20 20. Et durant notre petite pause musicale et météo et inforoute, on a reçu une question de Marc Delahutte qui a entendu qu'il était grand temps de planter radis et carottes. Il aimerait savoir si ces deux éléments se marient bien dans son potager qui ne comprend pour l'instant que des salades. Fabrice.
Alors oui, on peut y aller sans problème, mais toujours penser à peut-être ce froid qu'on peut avoir dès maintenant jusqu'à peu près à cette mi-mai comme on a parlé avant pour ces scènes glaces. Et puis par rapport à ça, on peut protéger peut-être d'une façon un peu plus précise des petits plantons. Si on n'a pas trop planté, on a des petits tunnels, on a peut-être des petits cônes en plastique qu'on peut protéger sa salade. Après, on a aussi des petites toiles de protection qu'on peut trouver dans différents centres de vente pour protéger les jeunes semis, pas qu'ils brûlent la nuit avec des coups de froid qu'il pourrait y avoir. Mais s'il veut démarrer les semis maintenant, que son jardin est prêt, il peut y aller. Mais attention à cette température.
Et Eileen, je crois que nous avons un téléphone, quelqu'un qui nous a appelé au 0901 70 20 20, comme vous pouvez le faire jusqu'à 8h. Il est en ligne, bonjour.
C'est Anne-Lise qui est avec nous, bonjour.
Oui, bonjour monsieur jardinier.
Bonjour madame.
J'aurais une question, j'ai un lilas dans le verger qui a fleuri énormément toutes ces dernières années. Cette saison, il a plein de feuilles mais il n'a aucune fleur. Est-ce qu'il est fichu ou qu'est-ce qui s'est passé ?
Alors, s'il est tout en feuilles, donc c'est déjà un très bon signe. Si il n'a pas fait de fleurs ou très peu de fleurs, ça peut être le cas d'un stress. Donc, ce stress, il peut venir tout simplement à cause d'un manque d'eau de l'année passée. Si vous êtes sur une terre peu profonde, directement sur un sol très drainant, très caillouteux dessous, ou si vous êtes sur de la marne. Donc, par rapport à ça, ce qu'il faut faire quand vous avez une saison sèche qui se met en place avec un hiver pas très pluvieux, un printemps aussi qui démarre sans les précipitations normales qu'on devrait avoir, on peut y apporter un peu d'eau. Il y a peut-être aussi de nombreuses années qu'il n'a pas reçu d'engrais, donc y apporter de l'engrais. Il y a peut-être le côté aussi de la taille de formation pour rechercher, d'entretien, pour rechercher à le mettre dans le volume qui devrait être, mais surtout pour rechercher un peu la fleur. Il y a une taille trop sévère qui peut être faite aussi, qui supprime la fleur. Donc, il faudrait prendre en compte tous ces paramètres. Alors, c'est plutôt, je pense, peut-être qu'il a eu un petit peu soif et puis un petit peu faim ces derniers temps, qui provoque une économie de la plante parce qu'il ne peut pas fleurir et faire de la feuille en même temps. Donc,
d'accord. On a de la chance qu'en prenant vos conseils, qu'il va refleurir l'année prochaine.
Alors, si vous le bichonnez un petit peu, comme on dit, cette année, oui, il devrait reprendre du poil de la bête et puis il devrait pouvoir après avoir suffisamment d'énergie pour pousser cette année, emmagasiner des réserves pour pouvoir l'année prochaine faire de la fleur et de la feuille.
Ok, je vous remercie infiniment.
Merci beaucoup, Anne-Lise, et puis n'hésitez pas à nous donner des nouvelles de votre lilas.
Merci.
Bonne journée, Anne-Lise.
Merci, au revoir.
Au revoir.
Tout comme Anne-Lise, hein, vous pouvez nous appeler pendant encore quelques minutes, puisque nous sommes ensemble jusqu'à 8 heures. Il vous suffit de composer le 0901 70 20 20, ou alors vous nous envoyez un petit SMS, vous tapez tout simplement le mot jardin, suivi d'un espace, puis de votre question, et vous nous envoyez tout ça au 939. D'ailleurs, on a reçu une question par SMS de Carla de Bienne, qui nous écrit pour savoir si un pot de tomates pourrait survivre sur son balcon, Fabrice. Les tomates, ça survit dans notre région.
Alors, ça se fait de plus en plus, les petits jardins sur balcon. Donc, on peut y mettre plein de choses. On peut y mettre des fruitiers, des petits fruits, avec des variétés qui sont adaptées, qui sont nanisées. Après, pour le potager, effectivement, là aussi, tout ce qu'il y a dans un potager traditionnel, on peut le mettre dans des petits bacs, dans des caissettes, dans des pots, et le faire passer sur une année complète sur son balcon et obtenir des récoltes aussi. Donc, c'est tout à fait possible, oui.
Et là, c'est la bonne période pour le faire, ou bien fallait le faire un peu avant, attendre encore quelques semaines ?
Alors moi, je suis assez d'avis de commencer à peu près assez sainte glace de nouveau, parce que la température de l'air, c'est une chose, mais c'est surtout la température de la terre qui est importante pour nos plantes. Donc dès que la terre se réchauffe, on a une croissance assez forte. On peut vérifier en faisant des plantations maintenant, parce qu'on a une semaine de beau il y a peu de temps, très chaude. Tout ce qu'on aura planté, pour ceux qui sont dépêchés à ce moment-là, en général, ce qu'on plante après la mi-mai, on a des rendements qui sont au niveau des plantes qui sont bien plus rapides et des plantes bien plus fortes. Donc, moi j'attendrai un tout petit peu.
Fabrice, on a reçu également une autre question par SMS qui nous demande quelle est la bonne période de l'année pour planter des framboisiers et quel est le bon emplacement pour eux.
Alors, la bonne période, c'est le départ de végétation, comme maintenant. Et puis, le bon emplacement, On a plutôt ce qui est ensoleillé un maximum de temps toute la journée. Et après, pour que ça se passe bien au niveau de la framboise, ce qu'il faut, c'est avoir des terres pas trop argileuses. Elles n'aiment pas trop l'argile, elles ont tendance à s'étouffer et à perdre pour après disparaître. Et après, ce qui est super intéressant, pour la production du fruit, il faut qu'au moment donné de la fructification, on ait suffisamment d'apport d'eau, parce que c'est très productif. Et plus on a de l'eau, plus les fruits grossissent et plus ils sont nombreux. Donc il faut tout ça réunir et ça marche très bien.
Et l'apport d'eau, on l'amène comment ? C'est uniquement les précipitations naturelles qui suffisent ou bien justement il faut les arroser abondamment ?
Alors effectivement, il faut les arroser un petit peu, mais après on peut tricher un petit peu, on peut s'aider par des paillages aussi. On peut mettre des copeaux en place pour maintenir l'humidité des sols, pour empêcher que les sols soient desséchés par le soleil ou par le vent ou la bise. Et puis comme ça, on maintient une bonne humidité du terrain et puis le tour est joué.
C'est généralement quelque chose qui pousse bien dans nos régions.
Ah, ça va très bien, la framboise par ici, oui.
Ah, pour une fois qu'il y a quelque chose de très bon qui pousse.
Très bien et facilement, il faut profiter.
On a une question de Daniel qui nous demande, j'ai un tilleul de 50 ans, je le taille chaque année, il a commencé à pousser mais je ne l'ai pas encore taillé, est-ce trop tard ? Cette année il n'a pas encore taillé son tilleul, est-ce que c'est trop tard pour Daniel ?
Enfin pour le tilleul de Daniel, pas pour Daniel évidemment.
On s'était bien entendu. D'accord, alors pour ce tilleul, donc ça dépend. Si ce tilleul, on a juste une taille de mise en forme, d'entretien très légère à faire, on pourrait faire ce qu'on appelle encore une taille en verre. Donc s'il a eu un suivi régulier, comme il le dit chaque année, et puis qu'on a juste des petites branches à couper pour le maintenir dans son volume, il pourrait encore le faire. Mais il ne faudrait pas s'attaquer à des sections trop importantes pour freiner la plante dans sa croissance et puis avoir une mauvaise cicatrisation. Donc c'est un petit peu le principe des haies qu'on taille en plein mois de juillet, plein mois d'août, plein mois de septembre. On voit qu'elles n'en souffrent pas. Donc on peut partir sur cette base-là. La plante ne va pas mourir.
Fabrice, vous êtes avec nous pendant encore quelques minutes. C'est également le moment pour nous de faire une pause musicale. Si durant cette pause musicale, une question vous vient, n'hésitez pas à nous envoyer un SMS. Vous tapez le mot jardin, suivi d'un espace, puis de votre question. Et vous nous envoyez tout ça au 939, comme l'ont fait de nombreux auditeurs ce matin. Ou alors, vous pouvez simplement nous appeler au 0901 70 20 20 pour 36 centimes la minute. 0901 70 20 20.
La matinale du samedi.
Nous sommes dans les jardinières, pas encore la matinale du samedi, une des jardinières qui sont encore là pendant quelques minutes pour répondre à toutes vos questions, les questions que vous pouvez d'ailleurs poser par téléphone. Et d'ailleurs, quelqu'un nous appelle, ah ben non, la personne a raccroché, mais sachez que vous pouvez encore nous appeler au 0901 70 20 20 pour 36 centimes la minute. Et cette fois-ci, je crois bien qu'on a quelqu'un avec nous. Bonjour, qui est là ?
Oui, c'est Claudine, bonjour.
Bonjour Claudine. Bonjour Claudine.
Je vous ai déjà appelé une fois, mais je ne me rappelle plus pourquoi.
Mais vous avez un autre problème apparemment ce matin, dites-nous tout.
Non, moi j'ai pas de problème. Écoutez, il s'agit de ma sœur qui habite la Franche-Comté.
Oui.
Elle a une maison là-bas, que je connais, mais que je ne suis plus retournée depuis des années. Et puis elle est très embêtée avec du lierre qui va partout. J'ai dit, oui, mais tu le coupes quand il y en a trop. Bon, ça, c'est une chose. Et puis, elle a des ronces qui poussent parmi les mûriers, ainsi que parmi les petits arbustes qui sont, et arbres qui sont à côté.
Claudine, je vous propose qu'on prenne un problème après l'autre. Tout d'abord, le lierre, Fabrice, qu'est-ce qu'on peut faire contre le lierre s'il nous dérange et s'il est nocif ?
Oui, il faut l'enlever, il faut le dévitaliser, il faut extraire la souche, extraire la racine pour que ça ne redémarre pas. Ouais.
Vraiment bien prendre les racines et puis...
Oui, d'accord.
Ouais.
Ça, c'est bon.
Et ensuite, vous avez parlé de...
Des ronces.
Mais elle m'a parlé de ronces. Alors, je dis, est-ce que c'est des ronces ou bien c'est des autres petits mûriers qui poussent à côté ?
Disons que la ronce et le mûrier, déjà, c'est la même plante. Donc, par rapport à ça, la ronce, c'est la mûre sauvage. Donc, par rapport à ça, c'est vrai que si vous n'enlevez pas la souche, ça reviendra automatiquement. Et c'est une plante qui a tendance à faire une racine extrêmement forte. Donc, de nouveau, là, il faut y aller en enlevant toute la racine, toute la souche.
Oui, mais ça, elle n'arrive pas.
Il faut y aller à la bêche, il faut creuser, il faut y aller dans le terrain. C'est un travail, suivant l'âge que s'est implanté cette souche, ça peut être assez laborieux, mais effectivement, c'est le seul moyen. Donc après, il y a des autres moyens, mais il faut travailler avec des désherbants totaux, style débroussaillant. Donc c'est des désherbants assez puissants. On ne trouve pas ça comme on veut n'importe où. C'est plutôt des produits qui sont peut-être réservés aux professionnels. Mais si vous pouvez le faire à la main, faites-le à la main.
Mais elle n'arrive pas. Elle m'a dit, j'ai essayé de les tirer dehors. J'ai mis des gants.
Ah non, c'est pas avec des lances, c'est vraiment avec un pic, avec une bêche. Il faut vraiment descendre en profondeur dans le sol, il faut descendre à moins 30, moins 40, et puis enlever toute la souche. Hein. C'est un travail qui demande un peu plus de temps.
Des mûriers qui donnent à côté.
Les mûriers peuvent mourir si on fait ce genre de procédé, Fabrice ?
Ben disons que si elle n'arrive pas à différencier les deux, oui, effectivement, elle peut compromettre le beau mûrier qu'elle veut garder. Mais encore une fois, la ronce, c'est de la mûre. Donc, si elle a une mûre qui est de jardin et puis une mûre qui est sauvage, ben à la limite, ce n'est pas super grave. Elle n'a qu'à les palisser, peut-être, je pense, cette personne et puis les prendre. Parce que tout compte fait, moi, si je dois aller au mur pour faire de la confiture, des gâteaux comme ça, je vais plutôt aller faire de la mûre sauvage en forêt. Donc, je préférerais une mûre sauvage plutôt qu'une mûre horticole qui sera peut-être un petit peu plus fière, peut-être un peu moins, avec moins de valeur aromatique. Donc peut-être qu'en les taillant d'une façon optimum, elle pourrait avoir à gagner dans cette histoire.
Oui, parce que les mûres, elles sont là depuis des années, hein, tous ces mûriers. Et puis elle fait de la confiture avec. Moi, j'en faisais aussi quand j'étais là-bas.
Je pense... Comme l'a dit Fabrice, il faudra vraiment y aller en profondeur et si ça ne marche pas, faire appel à un professionnel.
Pensé.
Ouais, peut-être le professionnel pourra vous aider.
Une question piège.
Attention, hein, on n'aime pas trop les questions pièges.
Est-ce que monsieur le jardinier qui est à côté de vous connaît ce qu'on appelle vulgairement l'herbe aux goutteux ?
L'herbe aux goutteux, non, je ne connais pas.
Ce sont des grandes feuilles qui se propagent partout et qui sont près d'une... près d'une source d'eau.
Eh bien, merci beaucoup.
Merci beaucoup pour cette information, Claudine. Et puis, vous pouvez nous appeler sans autre les semaines suivantes si vous avez encore des questions pour le jardin de votre sœur. Merci beaucoup.
C'est tout.
Au revoir.
Merci infiniment.
Belle journée,
bon week-end. Bon week-end. Vous
avez encore quelques minutes pour nous poser également des questions par SMS. Et d'ailleurs, on a reçu des SMS, Stéphanie.
Quelqu'un nous demande, Fabrice, comment se débarrasser des cochenilles sur un citronnier. Alors, est-ce que vous pouvez aider cette personne?
Oui, là, il faut tout simplement aller dans un point de vente qui a des produits qui s'occupent des plantes d'intérieur. Là-bas dedans, on pourra trouver des produits contre la cochenille, uniquement contre la cochenille. Comme ça, on va préserver tout autre petits insectes qui sont favorables. Donc, et puis respecter les dosages, les périodes d'intervention. Et puis, c'est le seul moyen rapide et complètement efficace par rapport à ce citronnier.
On a également reçu une question qui nous vient par SMS qui dit « J'habite à 1050 mètres d'altitude. Il y a 30 ans, j'ai planté un mélèze. Maintenant, les branches inférieures sèchent. Pourquoi ?» Vous le savez, Fabrice ?
Alors, normalement, cette plante, elle a atteint peut-être une croissance qui est quasi adulte. Donc, ce qui se passe, peut-être par rapport au sol, comme on l'a vu avant, peut-être qu'au niveau des réserves nutritives, on est un petit peu au bout de ce qu'il y a. Puis une plante, elle cherche toujours à pousser dans les extrémités des branches et puis en hauteur. Donc, cette plante, elle va priver un petit peu le cœur de la plante et puis le bas de la plante de lumière, de par son élargissement et sa hauteur. Et les branches qui sont vers le bas et vers le centre ont tendance peut-être à se dégarnir, enfin d'une façon normale, se dégarnissent toujours un peu. C'est pour ça qu'on a un dessèchement qui se fait dans le cœur de la plante et puis dans les branches les plus basses.
Et du coup, on peut y faire quoi exactement pour soigner tout ça ?
C'est une évolution normale des plantes, donc elles se taillent un peu par elles-mêmes en cherchant cette croissance et puis on n'a pas grand-chose à faire. Après, on va contre une dégénérescence de la plante. C'est typiquement dans le genre de plantes, les conifères qui sont difficiles à tailler, à former, ils ne réagissent pas comme des feuillus. Donc, on est obligé que d'être un petit peu spectateur. Par là, on ne peut pas faire grand-chose.
Des fois, la nature, il faut la laisser.
Effectivement, il arrive un moment donné où c'est qu'on ne peut plus faire grand-chose. Mais ce qu'on peut faire, si c'est un problème de nourriture ou de choses comme ça, peut-être, ce qu'on peut faire, c'est faire un carottage, apporter de l'engrais par ce biais. Ou alors, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut avoir aussi un dessèchement qui peut être fait par rapport à d'autres plantes qui sont plantées très près. Et peut-être que c'est celle-là qui aussi prive de lumière et provoque ce dessèchement. Donc peut-être si on peut tailler les plantes qu'il y a autour pour individualiser chaque plante, on peut renforcer comme ça peut-être le coup d'œil, l'esthétisme et en même temps favoriser la pousse de toutes ces plantes.
Eh bien, merci Fabrice, en tout cas pour toutes les réponses que vous avez apportées ce matin dans cette émission. La semaine prochaine, on espère du coup que le printemps sera de retour, Aïline.
Mais oui, et puis surtout, on espère que vous soyez à nouveau nombreux à nous écouter. On a encore reçu des SMS que l'on traitera donc la semaine prochaine. N'hésitez pas à nous envoyer toutes vos questions durant la semaine, également via notre formulaire qui se trouve sur notre site internet. On vous souhaite un tout bon week-end dans votre jardin ou ailleurs.
Merci Fabrice, merci Aïline, bon week-end.
7h, 8h, les jardinières.